Dans le cadre de notre partenariat avec le journal La Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie,
j'entends beaucoup parler de votre travail.
Retrouvez les grands titres du journal sur Divergence FM avec Françoise Verna,
je vous adore,
rédactrice en chef adjointe en charge de l'édition Occitanie.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Au téléphone avec nous et comme toutes les semaines, Françoise Verna, rédactrice en chef de La Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie, pour évoquer avec elle les titres à paraître sur ce nouveau journal de vendredi. Bonjour Françoise.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Et on commence donc cette une de La Marseillaise avec le dossier hebdo qui porte sur la part d'ombre de notre système agricole avec la situation des travailleurs saisonniers dans les champs.
Oui, tout à fait. Nous sommes allés voir un petit peu la situation de ces travailleurs saisonniers. Nous avons été
précaires, j'imagine.
Oui, alors en fait, c'est une part d'ombre. Pourquoi ? Parce que on suppose, mais on ne sait pas, que sans les travailleurs saisonniers agricoles, on ne peut pas ramasser nos récoltes.
Et oui.
Et nous sommes allés dans le Lunellois, qu'on appelle le jardin de Montpellier, parce qu'il y a énormément de cultures, de grandes cultures, notamment de fraises, de melons, mais aussi de salades, d'abricots, de pêches. Et il faut donc des centaines de travailleurs saisonniers pour ramasser tout le long de l'année ces récoltes. Alors, ils sont en fait 10 mois sur 12 dans les exploitations. Et comme vous le disiez, ils sont logés dans des conditions précaires et on consacre notre dossier à leur situation.
À lire aussi, dans La Marseillaise, le bilan de l'URSSAF pour lutter contre la fraude.
Oui, alors c'est sans transition avec le sujet précédent, bien sûr. Donc l'URSSAF qui est chargée donc de récolter les cotisations sociales, notamment nécessaires au financement de notre système de protection sociale, a dressé son bilan en début de semaine. Alors ils ont récolté. Alors c'est sur la période, la zone de l'ex-région Languedoc-Roussillon, donc Pyrénées-Orientales, Gard, Hérault, Aude et Lozère. Ils ont récupéré un peu plus de 21 millions d'euros pour un total de 180 contrôles effectués. Et donc le directeur régional nous explique les ambitions à venir, parce que même si le résultat est correct, on sait qu'il y a beaucoup encore de choses à faire.
La Marseillaise revient aussi sur les détails du plan solaire de la métropole de Montpellier qui sera débattu le 11 juillet par les élus.
Oui, alors c'est un enjeu important évidemment pour lutter contre la crise climatique, obtenir de l'énergie propre, donc de l'énergie solaire en particulier. Et donc c'est un plan ambitieux qui porte donc sur les 31 communes de la métropole de Montpellier. Il faut savoir que c'est une métropole qui jouit de 300 jours d'ensoleillement par an, donc c'est énorme, et donc il va être débattu à la mi-juillet par les élus, et il va être donc soumis au vote.
Côté gare, la Marseillaise annonce les états généraux de la santé organisés par l'intercommunalité Alès Agglo.
Oui, alors c'est important aussi parce que au niveau des collectivités locales, elles sont très mobilisées, notamment dans l'accès aux soins et dans la lutte contre les déserts médicaux. Et Alès Agglo, donc on est dans le Gard là, a pris cette initiative importante et donc nous en donnons les détails. Évidemment, c'est une initiative intercommunale et profondément citoyenne aussi.
D'accord. Et pour finir, un petit peu de culture avec la fête de la musique, et la Marseillaise va nous dévoiler un petit peu ce programme de ce cru 2023.
Oui, ben en fait, c'est finir un petit peu sur une note musicale dans le journal, avec notre propre sélection, parce que le 21 juin, donc, c'est la fête de la musique, c'est vraiment quelque chose qui est très installé depuis des presque plus de 4 décennies maintenant.
Merci
de l'appeler. 4 décennies et des brouettes. Et donc nous proposons des lieux pour aller profiter de la musique dans l'espace public au moment de cette fête. Mmh. Et on peut dire qu'on a bien besoin de culture et de musique et des artistes.
C'est le moins qu'on puisse dire, Françoise. Allez, à la une de la Marseillaise, vous avez les titres et on en parle tout de suite avec Françoise Vernard.
Politique, sociale, société, économie, France et internationale, environnement, sport, culture et loisirs, la Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie, c'est à retrouver tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.
Et on commence donc, Françoise, avec le dossier de la Marseillaise qui porte sur la part d'ombre du système agricole français avec la situation des travailleurs saisonniers dans les champs.
Oui, tout à fait. Alors, il faut dire que sans eux, sans ces centaines, voire milliers, je parle au niveau de l'Occitanie, oui, mais particulièrement dans notre département de l'Hérault et même du Gard, aucune récolte n'est possible dans nos champs. Mmh. Et c'est une main-d'œuvre, c'est là qu'on est allé un petit peu creuser, qui vient essentiellement d'Espagne. Oui. Là, nous sommes allés, nous avons choisi comme exemple, mais cet exemplaire, ça vaut pour d'autres lieux, hein, certainement. Nous sommes allés dans le Lunellois, oui, qui est surnommé le jardin de Montpellier, justement parce qu'il produit énormément de fruits et de légumes. Mmh. Alors, ils sont là, ces travailleurs saisonniers, pour... Ils plantent, ils ramassent, ils conditionnent, que ce soit nos salades, nos carottes, nos fraises et nos melons. Mmh. Ils sont évidemment logés, on a pu avoir des témoignages dans des conditions qu'on peut qualifier d'indignes. Ouais. Ils sont souvent soumis à l'arbitraire des employeurs, hein, et ils sont malheureusement largement ignorés des institutions. Et donc nous avons décidé de lever le voile sur cette part d'ombre du système agricole. Hein. Oui. Il faut savoir que c'est un système. Hein, donc, ce qui est important aussi, et ce que nous avons voulu expliquer à nos lecteurs et donc aux auditeurs de Divergence, c'est que les producteurs sont eux-mêmes soumis à la pression des distributeurs, des, oui, grands distributeurs, qui contractent des contrats avec eux et qui baissent, tirent les prix vers le bas.
D'accord.
Ces producteurs, il ne s'agit pas là de leur trouver des excuses, mais d'expliquer qu'ils vont aller pour avoir les prix, proposer les prix les plus compétitifs. Ils vont aller donc jouer sur le coût de la main-d'œuvre.
Oui.
Et donc, c'est pour ça qu'on a énormément de travailleurs saisonniers étrangers dans les champs. Mmh. Quand on dit étrangers, la plupart des gens que nous avons rencontrés, ils sont de nationalité espagnole et d'origine sud-américaine.
D'accord.
Et c'est là que nous expliquons aussi pourquoi il y a autant d'Équatoriens, de Boliviens, de, ouais, Colombiens dans nos champs. Parce qu'en fait, ils ont été naturalisés espagnols parce qu'il y a eu des gros scandales aussi en Espagne de travail dissimulé qui ont été révélés. Il y a eu, oui, des vagues aussi de naturalisation. Et comme il y a aussi une crise de l'emploi dans les autres pays européens, mm-hmm, ils sont allés aussi chez nous, dans le Gard, dans l'Hérault, pour avoir de meilleurs salaires, parce, ouais, qu'on leur a promis de bons salaires, un logement. Sauf que la réalité, c'est l'enfer du décor, plutôt, mmh, que l'envers du, ouais, décor. Il est vraiment sombre. Et c'est pour ça que nous faisons ce dossier. C'est à notre niveau pour essayer de faire bouger les lignes et surtout de porter à connaissance. Mmh. Et nous avons dans ce dossier notamment un entretien avec une avocate au barreau de Montpellier qui s'appelle Julie de Rudnicki, mmh, qui défend les droits de ses ouvriers saisonniers. Elle nous explique qu'ils arrivent avec beaucoup d'efforts et de combats à gagner quelques procès au prud'homme de, oui, requalification. Le phénomène récurrent, c'est la rupture de contrat. La rupture de contrat du jour au lendemain, mmh, une fois qu'on a épuisé les gens, ils ont des CDD qui s'enchaînent parfois sur des périodes de 10 mois sur 12.
Ouais.
Et une fois que, évidemment, ils ont tiré un peu trop sur la corde, ils vont rompre le contrat en faisant signer des papiers à des personnes qui ne lisent pas le français. Mmh. Parfois le comprennent peu, le parlent pas vraiment. Or, la législation exige qu'il y ait, par exemple, des contrats dans la langue de la personne pour qu'elle puisse signer de manière éclairée. Et c'est en révélant le fait qu'il n'y a pas une connaissance éclairée de la rupture de contrat que ces avocats arrivent à faire requalifier en licenciement abusif ces ruptures de contrat. Mmh. Pour la personne concernée, la galère continue, hein, parce que quand on perd son contrat de saisonnier agricole, on perd souvent son logement.
Oui.
Donc il y a une véritable précarité. On perd aussi la possibilité de pouvoir avoir droit aux allocations ou aux indemnités. Mmh. Et les personnes que nous avons rencontrées, et ça c'est le plus frappant dans ce dossier, c'est que nous avons rencontré quelques-uns de ces travailleurs qui ont accepté de témoigner, évidemment de manière anonyme pour les protéger. Il faut savoir déjà qu'ils sont relativement âgés, puisque nous avons des personnes qui ont 68 ans, 59 ans.
Pour des travails très difficiles.
61 ans pour des travails au champ, extrêmement difficiles, avec des situations vraiment dramatiques. Mmh. C'est-à-dire que c'est des personnes, il y a une des personnes qui témoigne, qui est toujours au champ actuellement, et qui, il y a 2 ans, a été victime d'un infarctus à cause du rythme du travail.
D'accord.
Et qui a été évidemment soignée, mais qui est obligée aujourd'hui de retourner au champ pour pouvoir... tout simplement se nourrir et surtout envoyer de l'argent à sa famille qui est en Espagne dans l'espoir de retourner un jour pour avoir une vie meilleure en Colombie. En l'occurrence.
Vous savez à quoi ça me fait penser, Françoise? Le monde et notamment la France étaient vraiment contre la Coupe du Monde au Qatar à cause des stades construits par des travailleurs logés dans les... Mais ça me fait penser à ça, en fait.
Oui, disons que c'est à côté de chez nous, on a de l'exploitation humaine, en fait, hein, qui est complètement... qui s'explique par le système agricole productiviste. C'est-à-dire qu'on parle pas de du petit exploitant agricole, ça va être des 500 hectares.
Ouais,
et puis il y a une demande aussi des distributeurs, une grande enseigne d'origine allemande qui fait beaucoup, qui est numéro un français des fruits et légumes aujourd'hui, hein, c'est pas les et qui va fournir outre ces supermarchés, mais aussi va beaucoup exporter. Et donc c'est un travail toujours pour eux, l'objectif c'est de baisser au maximum le coût du travail. Mmh. Et donc au bout de la chaîne, tout en bas de l'échelle, il y a ces forçats de la terre, comme nous les appelons, qui ramassent nos fruits et nos légumes. Je me souviens que nous avions eu à Divergence une émission avec l'association Souffrance au Travail et son président Gérard Française, qui nous a aussi accompagnés sur ce dossier, puisqu'il est du Lunellois, il est de Lunel, il est aussi syndicaliste CGT et il s'occupe d'accompagner, de recevoir ces ouvriers agricoles. Nous disait cette phrase extrêmement forte qu'il faut tous avoir en tête: quand vous mangez vos fraises, vous mangez aussi les larmes de ceux qui les ont plantées et ramassées.
Oui.
Donc j'invite vraiment à se plonger sur ce dossier en le travaillant. Nous avons découvert énormément de choses qui durent depuis des années. Mmh. Et surtout, l'absence au niveau des institutions.
C'est ce que j'allais vous demander, Françoise.
Des moyens. En fait, il y a un problème, c'est ce que nous explique l'avocate. Elle donne son sentiment, mais elle dit qu'en gros, il y a une sorte de démission, mais en fait, presque de démission des pouvoirs publics, puisque c'est un système qui est bien installé. C'est un système que les exploitants agricoles maîtrisent complètement. Mmh. Ils arrivent à passer entre les mailles du filet, ça c'est sûr et certain, mais parce que aussi au niveau de l'État, des inspections du travail, il y a un manque de personnel important. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en moyenne, un inspecteur ou une inspectrice du travail doit s'occuper de 300 entreprises en moyenne.
D'accord.
Voilà. Ce qui nous amène à notre deuxième sujet que nous mettons en avant avec vous sur Divergence, qui est donc le bilan de l'URSSAF au niveau régional sur la question de la fraude. De la fraude fiscale et de la fraude notamment aux allocations, aux cotisations, pardon, sociales.
C'est le bilan 2022 qui est sorti.
Oui, alors c'est énorme. Alors, pour bien situer les choses, nous parlons de l'URSSAF sur le périmètre, le territoire de l'ex-région Languedoc-Roussillon. Donc, l'URSSAF qui, là, travaille en l'occurrence sur les Pyrénées-Orientales, le Gard, l'Hérault, l'Aude et la Lozère, hein, qui sont donc les 5 départements de l'ex-Languedoc-Roussillon. Mais il y a beaucoup d'institutions et d'organismes qui ont gardé ce découpage territorial pour leur travail et pour leur zone d'intervention. Donc le bilan 2022 qui a été dressé par la direction de l'URSSAF et par son directeur François Yebel, comme vous l'avez dit, c'est 21,32 millions précisément d'euros récupérés en 2022 pour un total de 180 contrôles effectués. Alors déjà, c'est une progression puisque c'est un chiffre, le nombre de contrôles et surtout les gains qui ont été, les cotisations qui n'avaient pas été versées et qui ont été récupérées, ça a été multiplié par 2,5 en 5 ans. Alors pourquoi ça a été si important cette somme, c'est qu'ils ont développé les moyens. Ils ont développé les moyens. Ils ont un objectif sur la période qui va de 2023, donc d'aujourd'hui à 2025, d'obtenir jusqu'à 120 millions d'euros. Donc il y a vraiment une marge et encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Pour travailler, l'URSSAF a recours, nous disent-ils, à l'intelligence artificielle. Hein,
D'accord.
Donc en fait, ils vont utiliser, c'est ce que nous explique François Yebel, les données des déclarations sociales nominatives, celles des embauches des salariés, des créations d'activités. Ils vont les croiser avec d'autres partenaires, l'administration fiscale et l'inspection du travail. Et des renforts aussi à l'URSSAF sont attendus. Aujourd'hui, il y a 60 inspecteurs et contrôleurs en place sur la région, non pas Occitanie, mais le périmètre Languedoc-Roussillon, ce qui n'est pas non plus énorme. Et ce que nous annonce le directeur, c'est que il y en a 10 sur ces 60 qui sont vraiment spécialisés sur le travail dissimulé. Et ils vont passer à 17 personnes, nous annonce-t-il, qui vont être recrutées progressivement.
D'accord.
Alors, quand on a un nombre donné de moyens humains, à savoir 60 inspecteurs et à terme un peu plus, il faut aussi viser des secteurs. Des secteurs qu'il appelle fraudogènes, qui sont plutôt enclins à la fraude. Alors il va citer le bâtiment, évidemment, les hôtels, les cafés-restaurants, qui sont évidemment fortement représentés dans la région. Il y a aussi le secteur du gardiennage et des transports. Il y a quand même, on parlait d'angle mort dans le dossier agriculture, il manque quand même, on peut donner notre sentiment, il manque peut-être la question aussi de l'agriculture. Donc, il y a aussi le phénomène des travailleurs indépendants. Alors, ils disent que c'est une cible importante pour eux, parce que c'est un secteur en pleine expansion, et donc ils vont mettre de nouveaux moyens en place, notamment sur les plateformes. Et donc, ils devront, ces plateformes vont devoir déclarer un système de précompte de cotisation à l'horizon 2026. Alors, ça peut paraître un peu technique, mais c'est extrêmement important parce que faire lutter contre la fraude fiscale, c'est pérenniser aussi notre système de protection de protection sociale. Mmh. Et ça va au-delà des annonces qui ont été faites par le gouvernement, même si l'URSSAF, évidemment, tient compte de ces directives-là. Mmh. C'est surtout une question, on voit, de moyens pour le service public. C'est en mmh. tout cas, nous, l'analyse que nous en faisons dans la Marseillaise.
D'accord. Allez, direction Montpellier avec les détails du plan solaire que je ne connaissais pas de la métropole de Montpellier qui sera débattu le 11 juillet prochain par les élus.
Oui, alors en fait, la métropole de Montpellier va miser sur le photovoltaïque. Alors, la collectivité, donc la métropole de Montpellier, il faut rappeler que c'est 31 communes, donc c'est assez important. Et donc, elle élabore et elle va la soumettre au vote ce plan solaire 2050, c'est son nom. Il va passer notamment par des installations en toiture. C'est une feuille de route qui présente notamment des actions à mener, en premier lieu, évidemment, sur le patrimoine communal et métropolitain.
Oui.
Et puis, il va y avoir aussi de l'incitation, notamment pour encourager les initiatives dites privées, oui, et publiques sur les communes de la métropole. Alors, pourquoi c'est un enjeu important? Parce qu'à Montpellier, il y a 300 jours d'ensoleillement par an.
Oui, c'est presque trop.
Donc, il y a vraiment une opportunité à saisir pour augmenter la production d'énergie renouvelable sur le plan local. Donc, ce plan, il a été déjà présenté, là, début juin, il a été présenté là tout récemment. Et il va être donc, comme vous l'avez dit, il va être soumis au vote, il a été mis en délibération, comme on dit, au Conseil de la métropole, donc qui rassemble tous les élus métropolitains, le 11 juillet.
D'accord.
Donc, il y a un scénario avec des points d'étape qui vont être progressifs, avec trois dates butoirs. Bon, une très récente, c'est 2026. Après, il y a 2030 et 2050.
D'accord.
Et donc, Isabelle Touzard, donc, qui est déléguée à la, donc vice-présidente de la métropole, déléguée à la transition écologique, est solidaire. Elle est aussi, dans sa délégation, elle a la biodiversité, l'énergie, l'agroécologie et l'alimentation. Je pense que c'est la barre qui est bien chargée. Elle nous explique que la métropole de Montpellier, évidemment, c'est un territoire essentiellement urbain, avec donc par définition beaucoup de toits, de maisons, des copropriétés, il y a des entreprises, des bâtiments publics. Et donc, l'objectif premier, c'est de faire en sorte que les toits soient solarisés, comme elle emploie ce terme, en priorité.
D'accord.
Alors, ce qu'il y a aussi dans les zones urbaines, nous explique Isabelle Touzard, c'est que ce sont les ombrières sur les parkings. C'est aussi un gros levier pour pouvoir poser des panneaux solaires. Et enfin aussi, parce que c'est une zone, c'est urbain, la métropole, mais c'est aussi, il y a des zones agricoles et naturelles. Et donc, il va y avoir des emplois, des endroits qui vont être extrêmement ciblés pour poser ces panneaux solaires. L'objectif, c'est que d'ici 2030, c'est de multiplier par 4 la production d'électricité produite avec l'énergie solaire. Et donc, il va falloir aussi encourager, nous dit-elle, nous dit la métropole, les initiatives qu'elles soient privées ou publiques sur les 31 communes. Donc, il va y avoir, il y a déjà mis en place ce qu'on appelle un cadastre solaire qu'on peut retrouver sur le site de la métropole. Il est à destination, ce cadastre, vraiment, il s'adresse aux particuliers et aux entreprises. Alors, la métropole nous explique que c'est un outil pédagogique qui va permettre d'identifier le potentiel solaire d'un logement ou d'une construction. Donc, il y a le mode d'emploi sur le site. Donc, c'est vraiment, les gens peuvent être actifs, proactifs. Après, une fois que ces personnes, particuliers ou entreprises, ont consulté ce cadastre solaire, ils vont être dirigés vers l'Agence locale de l'énergie et du climat, l'ALEC, qui va pouvoir délivrer des conseils et les faire se rapprocher d'une entreprise pour installer des panneaux solaires.
D'accord.
Bon, évidemment, il y a toute une part, il va y avoir énormément d'investissements public, hein,
oui.
puisque il y a des objectifs écologiques importants, et le photovoltaïque a l'avantage de générer des investissements conséquents. Mmh. Et donc, ce que nous explique l'élu, c'est que ça développe aussi de l'emploi et du chiffre d'affaires pour les entreprises, hein, du territoire. Hein.
Oui.
C'est estimé à peu près à 73 millions d'euros pour 2026.
D'accord.
Voilà, donc c'est un tour d'horizon assez détaillé et précis sur ce plan solaire 2050 de la métropole de Montpellier.
Allez Françoise, on quitte l'Hérault pour se diriger vers le Gard où la Marseillaise annonce les états généraux de la santé organisés par l'intercommunalité Alès Agglo.
Oui, alors en fait, pourquoi Alès Agglomération a lancé, alors le top départ a été donné le 12 juin, c'était ce lundi, ces états généraux de la santé, parce que la situation est de plus en plus tendue.
D'accord.
Et donc, il y a à la fois l'agglo d'Alès qui lance ces états généraux, et il y a le comité de défense de l'hôpital et de la médecine dans le bassin Cévenol, qui lui veut créer un grand pôle public territorial de proximité.
D'accord.
Donc, il faut savoir qu'il y a eu, évidemment, la pandémie qui a, paradoxalement, retardé le lancement de ces états généraux de la santé de 3 ans. Hein, donc, il y a 3 ans de retard.
D'accord.
Mais il vient d'être lancé. C'est, comme nous décrivons, Alès et son agglo, c'est un peu le symbole de la France des sous-préfectures, hein, et la situation en termes de santé et d'accès à la santé dans cette agglomération est alarmante. Hein.
D'accord.
Y a un chiffre qu'il faut retenir, il y a 10 000 patients qui n'ont pas de médecin dans l'agglomération alésienne. Il y a l'hôpital public dans cette zone-là des Cévennes est sous tension avec des urgences surchargées, c'est-à-dire qu'il y a 47 000 passages pour un service à l'année, pour un service construit, pour en accueillir la moitié.
D'accord.
Et puis nous avons cette maternité qui a été obligée de fermer récemment son bloc opératoire pendant 48 heures.
Mmh.
Et les menaces qui pesaient sur la clinique Bonnefond qui ont failli fermer. Donc, en termes aussi de kinésithérapeutes, de pharmaciens, d'infirmiers, d'infirmières, de psychiatres, l'agglomération alésienne est très loin de la moyenne nationale. Bref, pour se soigner notamment à Alès, dans la capitale des Cévennes, c'est absolument pas une sinécure.
Mmh.
Donc, d'où l'intérêt de ces états généraux de la santé, avec deux axes importants. La couverture territoriale pour avoir une meilleure accessibilité aux services de santé.
Mmh.
Évidemment, il va y avoir des concertations qui vont avoir lieu, notamment avec les professionnels. C'est programmé le 19 juin, entre les élus, ça va être le 21 juin, et avec les institutions le 28 juin. Et donc, il y aura une restitution de ces travaux début octobre.
D'accord.
Comme nous explique le président de Alès Agglomération, qui est Christophe Rivinck, l'objectif, c'est de faire bouger les lignes. Nous allons nous poser les questions que personne ne pose, nous déclare-t-il, sans tabou. Et ils veulent créer un modèle qui n'est la copie de rien d'autre, comme nous avons l'habitude de faire, dit-il. Alors, il est très volontariste et on peut souligner son volontarisme parce que la situation est quand même très tendue. Et de son côté, il y a un comité de défense de l'hôpital et de la médecine dans le bassin Cévenol qui a lui aussi communiqué notamment à la presse pour exprimer déjà son étonnement, parce que ça commence peut-être un peu mal, puisqu'ils n'ont pas été invités pour participer à ces échanges. Or, ils ont quand même une expertise et citoyenne et aussi médicale. Hein. Donc, il y a quand même déjà une petite problématique là, déjà de dialoguer avec les acteurs locaux. Alors la réponse, enfin une des réponses, en tout cas une des propositions que le comité de défense de l'hôpital et de la médecine dans le bassin Cévenols veut mettre en avant, et je pense qu'ils vont s'inviter eux-mêmes, même s'ils ne le sont pas, à ces réunions, c'est de créer, enfin de réclamer, parce qu'ils ne vont pas le faire tout seuls, un grand pôle public territorial de proximité qui pourrait s'accoler à l'hôpital public. Et nous avons donc Jean-Marc Lessène, qui est médecin généraliste et qui fait partie de ce collectif, qui nous explique que le maillage du territoire doit adosser la médecine de premier recours, c'est-à-dire le médecin de famille, le médecin généraliste, au service public de proximité. Et donc, pour lui, ce premier niveau doit reposer sur des formes publiques et doit pratiquer le salariat, généraliser le tiers payant et ne pas pratiquer de dépassement d'honoraires. C'est ça l'accès à la santé. Et la gestion pourrait être associative, communale, intercommunale, départementale, voire coopérative. Ce qui est intéressant, c'est de voir que dans le bassin Cévenols, il y a une véritable mobilisation, même s'il peut y avoir, on va dire, je ne parlerai pas de conflit, mais quand même de tiraillement ou une nécessité de mieux dialoguer entre les différents acteurs du territoire, puisque le but quand même, c'est de rendre que tout le monde puisse avoir accès à des soins et à un suivi médical, ce qui est quand même pour la sixième puissance mondiale, la France, le minimum à proposer aux citoyens.
Mais pardon Françoise, mais il faut des moyens. Bon là on discute, mais derrière il va falloir sortir le portefeuille aussi.
Mais il faut sortir le portefeuille, mais il y a des priorités en termes de services publics. Quand on voit, bon là on peut parler d'enfance en général, les choix, là ça repose sur des choix politiques. De dotation politique, de dotation et de moyens de renforcer les services publics. C'est ce que réclament depuis très longtemps les acteurs du service public, notamment de l'hôpital. Mais l'hôpital ne fait pas tout. Voilà, il faut aussi un maillage territorial. C'est aussi, on peut parler de l'initiative régionale, du Conseil régional d'Occitanie, qui lui va jusqu'à installer et proposer à des médecins de s'installer en les recrutant et en faisant en sorte qu'ils soient salariés. Donc il y a aussi une défaillance au niveau certainement de l'État, mais pas un État désincarné. C'est un État qui aujourd'hui est incarné par un courant quand même libéral, politique libérale, voire néolibéral, qui est plus dans le discours de il faut réduire la voilure, il faut réduire ne disent pas comme ça, pas le service public, mais on voit bien que, par exemple, l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires dont font partie le personnel hospitalier, ça montre bien que les moyens, déjà, pour attirer aussi des futurs professionnels de la santé publique, il faut aussi que les rémunérations soient attractives. Et on peut pas dire que les territoires, eux, ne mettent pas... En tout cas, ils ont la volonté, mais ils ont leurs contraintes aussi budgétaires. C'est un choix, on va dire, pour résumer, un choix de société.
Oui, mais on peut dire que la dernière annonce de Stanislas Guérini ne va pas dans le bon sens alors. Hein, parce que si on fait le calcul de ce saupoudrage qui va coûter une fortune, mais qui ne va pas changer la vie des gens, je crois que ça représente 4 euros par mois, quelque chose comme ça. Enfin,
non, c'est pas énorme du tout. C'est pas ça qui va régler la question de la crise des recrutements. Dans le médical, le paramédical public, bon, je parle pas du privé qui lui aussi se taille quand même la part du lion, en gardant ce qu'il y a de plus rentable. Or, le public, lui, il accueille tout le monde sans distinction. Et c'est quand même la grande différence.
Allez Françoise, la fête de la musique pointe le bout de son nez, c'est le 21 juin prochain et la Marseillaise propose sa sélection pour cette nouvelle édition.
Oui, on a fait une sélection, je crois qu'on a sélectionné six lieux. Alors évidemment sur l'ensemble du territoire. Par exemple, Du côté de Sète, les quais s'électrisent puisque l'île singulière accueille cette année Jean-Marc C aux platines, oui. Julie Weiss au violon électrique et Sylvain aux percussions. Donc c'est un trio qui va donc animer les quais de Sète de 19h à 23h mm-hmm. le 21 juin. Tout ça est bien évidemment gratuit.
Et
c'est
oui.
ça qui est bien dans la fête de la musique. Du côté de Lunel, on va aller en Irlande, puisque le groupe Comrade Irish Band
oui.
plonge le spectateur dans les contrées du tigre celtique. Donc voilà, donc là on va pouvoir danser et puis peut-être accessoirement boire quelques petites pintes de bière, mais l'abus d'alcool est quand même, attention, hein, voilà, il ne faut pas abuser. À Béziers, c'est un duo intergénérationnel,
oui.
puisque c'est le groupe Level, formé de deux chanteurs, David et Thierry, mm-hmm. qui va entraîner la foule à se remémorer les grands titres du siècle dernier.
D'accord.
C'est le 20e. Hein. Donc ça sera les reprises du pop-rock, les années 50. Alors il y aura du Elvis Presley, des Beatles, il y a Queen, Kylie Minogue ou Muse. Donc on va vraiment bouger du côté de Béziers. Évidemment, on n'oublie pas le Gard, nous, hein, puisqu'il va y avoir du bruit dans les caves, ça décoiffe. Alors c'est DBDLC, c'est le groupe de rock français originaire du Sud-Est,
ouais.
qui va être à Nîmes, qui va faire vibrer la ville au son des guitares électriques. Alors ils ont comme, on va dire, filiation Téléphone, Metallica ou Noir Désir.
Ouais.
Donc là, ça va se passer place de la Calade.
Ouais.
Attention, c'est pas pour les enfants, puisque c'est à partir de 22h30.
Ouais.
Et donc, ça va durer un petit moment. Et tout ça, évidemment, est toujours gratuit. Et nous avons Bagnols-sur-Cèze avec sur la place Mallet, l'orchestre du Colao ouais. à 20h. En fait, c'est un groupe japonais
oui.
qui va venir nous offrir ces rythmes carnavalesques, des tambours, des cuivres avec des chants.
Et puis rappelons Françoise que ça, on vient de parler des scènes dites institutionnelles, mais la fête
oui.
de la musique, ce n'est pas que ça. C'est
oui.
aussi le musicien qui descend avec sa guitare et sa sono
Exactement.
Dans la rue, et c'est ça qui fait la beauté de cette manifestation, je trouve.
Oui, 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 tout à fait. Mais là, comme c'est complètement spontané, informel, c'est compliqué de dire.
Et oui,
Ben on peut découvrir au coin de la rue.
Il faut aller se balader.
J'ai oublié Montpellier puisqu'il va y avoir aussi la Nouvelle-Orléans, ça va être la place du Pérou, donc concert de 23h à 1h du matin. Disons qu'on donne des pistes et pour aller sur ces lieux, eh bien, il faut aussi déambuler.
Et oui,
c'est ça qui est bien, déambuler dans les rues de nos communes découvrir aussi ces musiciens amateurs au sens premier du terme, c'est-à-dire amoureux de la musique.
Et oui. Et ben voilà, Françoise, tout est dit.
Oui, à retrouver le 16 juin
dans tous les bons
dans
kiosques.
Kiosques et sur lamarseillaise.fr.
Et quant à nous, chère Françoise, on se retrouve évidemment à partir de la semaine prochaine pour égriner les nouveaux titres à la une de la Marseillaise.
Très volontiers.
À la semaine prochaine, Françoise.
Au revoir.
En partenariat avec Divergence FM, retrouvez chaque semaine sur l'antenne du 93.9 les titres de la Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie avec Françoise Verna. La Marseillaise, c'est tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.